Peut-être contrairement aux habitudes, d'abord bonjour à chacun et à chacune, c'est toujours un bon moment, c'est une journée, je crois, pour un bon nombre, on va passer toute la journée ensemble, hein, puisqu'on a un repas en commun, et puis ensuite on a l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle, puisque pour l'instant nous ne sommes pas encore au ciel, hein, ça nous est annoncé, ça viendra, mais pour l'instant nous devons marcher sur cette terre, et donc nous allons passer la journée ensemble pour un grand nombre. Bon, ce sera dit aux annonces tout à l'heure, je ne reviens pas. Ce matin, je voudrais parler d'un thème, le titre de mon message, ce sera « Entière consécration ». Pourquoi ? En tant que le grand berger des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a voulu, il a appelé des hommes à l'endroit, au service, pour conduire une partie de son peuple. Le rôle du pasteur, du berger, finalement, hein, c'est berger, eh bien, c'est d'accompagner les brebis, mais un peu plus que ça, de leur éviter aussi tout un tas d'ennuis. Et lorsque, pour plusieurs raisons, eh bien, moi j'ai des occasions de tristesse et de préoccupation. Alors, je les remets au Seigneur, mais néanmoins, il nous a été rappelé tout à l'heure que le Seigneur reviendra. Une place nous a été préparée, Jean-François leur disait dans sa prière. Le vœu de mon cœur, c'est que ceux qui sont ici, on se retrouve là-haut. Dieu est bon, mais il est aussi saint, il est aussi puissant, et il est venu la première fois, non pas pour juger le monde, mais pour sauver les hommes et les femmes sur cette terre, suite à la chute, mais la deuxième fois, quand il reviendra, ce sera aussi pour juger. Et je pense, voilà, moi j'ai parfois, vous savez, à l'occasion d'une assemblée générale, on fait un peu des bilans, on regarde un peu ce qui s'est passé. Alors, on le vit un peu tout au long de l'année, mais il y a quand même plusieurs choses qui marquent, pas forcément simplement dans notre assemblée, et c'est peut-être moins marqué ici, mais des questions interpellent. Des questions interpellent sur des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre avec le Seigneur ou qui viennent, qui s'approchent, qui s'intéressent, puis qui repartent. D'autres qui ont fait des rencontres réelles, fortes avec le Seigneur. Et on voit, au bout de quelques semaines, quelques mois, des fois quelques années, une vie qui va complètement de travers. Et cela, c'est douloureux. C'est douloureux. Alors, un berger qui veille sur son troupeau, parce que surveiller, ça fait, oh là, ça fait un peu flic, ça, cette affaire-là. Alors, l'épiscopos, les anciens qui entourent le berger, sont appelés à veiller sur. Hein, j'avais souligné cet aspect-là, veiller au-dedans, veiller au-dehors. Et aujourd'hui, au-dedans, il y a des difficultés, et au-dehors, il y a de grandes menaces. L'Écriture nous informe, nous prévient. J'ai changé hier, on était quelques. Enfin, il y avait Bartoli fêtait son anniversaire, ça a été l'occasion aussi d'échanges. Et certains me disaient, mais Robert, tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe, des déclarations communes, interreligieuses, qu'on va tous ensemble, c'est le même Dieu, tout va bien. On est dans des temps absolument terribles, mais que la parole nous annonce. Nous ne devons pas être surpris. Néanmoins, il faut quand même se dire clairement les choses. Parce que si des personnes ayant véritablement rencontré le Seigneur, et je vais y revenir sur ce qu'est la conversion, la nouvelle naissance, ça nous a été la greffe hein, que nous a partagé Jean-Luc la semaine dernière, ce n'est pas normal que, au bout de quelques mois ou quelques années, les gens soient dans une déconfiture. Mais la parole nous éclaire aussi là-dessus, c'est pour ça que je voudrais partager ça avec vous. Et je donne tout de suite un peu la solution de cette affaire-là, c'est une entière consécration à Dieu. Je pourrais arrêter mon message là, c'est-à-dire toute chose où notre cœur va être partagé vont nous emmener dans les décors. Inévitablement, inévitablement. Nous avons loué et chanté et célébré le Dieu Tout-Puissant. On doit avoir une sainte crainte de l'Éternel. C'est pas réservé à l'Ancien Testament. C'est pas réservé à l'Ancien Testament. C'est encore plus du temps de la grâce, puisque Nous avons maintenant la connaissance et l'entière révélation du plan et de comment Dieu a voulu faire pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner une vie nouvelle et pour nous ramener avec lui dans une pleine communion pour que nous il soit tout en tous. Donc aujourd'hui, du temps de la grâce, il y a encore, j'allais dire, plus d'exigence. Mais cela ne doit pas nous faire peur puisqu'il nous a donné les moyens, puisqu'il vit en nous. Ce n'est pas le thème de mon message, mais je fais quand même ce rappel pour que certains ne se disent pas « Mais attends, il nous assomme là, mais il ne nous dit pas comment nous en sortir. » Mais ça, on le rappelle chaque dimanche, comment s'en sortir. Venir à Dieu, se repentir, recevoir la vie qu'il veut nous donner, et c'est une vie puissante, la seule, qui peut balayer toutes les ordures qui traînent encore dans nos vies. Alors, je vais revenir ce matin là-dessus. Je voudrais revenir un peu sur ce qui se passe au moment d'une conversion. Alors, les chemins sont variés, les expériences peuvent être variées, mais il y a une constante. La nouvelle naissance nous donne à voir et nous introduit dans le royaume de Dieu. Jean 3 nous le déclare clairement. Nul ne peut voir ni entrer s'il ne naît d'esprit, d'eau et d'esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous console aussi et change notre mentalité, la métanoïa, disent les Grecs. Hein. Ça, c'est l'œuvre repentance, conversion, nouvelle naissance. Ça se passe dans des ordres, des fois différents. Les uns ont d'abord une révélation de la réalité de Dieu, de son amour. Mais un jour ou l'autre, il nous convainc de péché. Un ami qui fréquente l'Église comprenait pas que des chrétiens, justement, proclamant, disant appartenir à Dieu, vivent des choses effroyables. Et je disais à celui qui me partageait ça, je dis, ben, le jour où il sera convaincu de péché, il aura compris. Parce qu'il verra dans quel état il est aussi, lui. Hein? On peut fréquenter une Église, mais sans avoir jamais été convaincu de péché. Le jour où on est convaincu de péché, eh bien, ça ne nous amène pas de la tolérance, ça nous amène de la miséricorde. Ça ne nous donne pas d'excuses pour le péché. Mais une fois qu'on a que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous a fait la grâce de nous révéler l'état de nos cœurs, ça nous calme pour juger et pointer du doigt l'autre. Et c'est comme ça que ça va mieux, ça met de l'huile tout ça. Hein? Quand on a une conviction de péché, ça ne nous donne pas la tolérance du péché, bien au contraire. Mais ça nous donne l'amour pour ceux qui n'ont pas encore été convaincus de péché. Alors voilà, une nouvelle naissance, c'est tout ça. Toutes ces étapes se passent, les uns d'une façon ou d'une autre, mais il ne peut pas y avoir de réception de la nouvelle vie véritable sans avoir été convaincu de son péché. Et être convaincu de son péché, ce n'est pas simplement chercher dans sa tête une liste de choses qu'on n'a pas fait trop bien. Un homme avec qui je parlais cette semaine, on a eu un rendez-vous, un homme d'affaires qui est maintenant âgé, qui a près de 80 ans. Un moment, nous discutions un peu affaires et il me dit, mais monsieur Gibier, moi, c'est vrai, j'ai aimé l'argent, j'aime encore l'argent, mais beaucoup moins que d'autres. Ah oui ? Texto ! Jean-Pierre était avec moi et témoin. Beaucoup moins que d'autres. Ah ben voilà la belle affaire, il se compare aux autres. Moi, je ne suis pas dans la débauche, je ne vais pas dans des choses que infâmes. Mais bon, je trompe ma femme, mais tout le monde le fait. Alors ça va. C'est pas ça. C'est pas ça être convaincu de péché. C'est pas ça même confesser des péchés. Hein, je me rappelais, moi, pendant plus de 40 ans, j'allais me confesser tous les 8 jours. Il y a des fois, je cherchais la liste. Enfin, plus on vieillit, moins on cherche la liste quand même. Hein? Mais je peux vous dire que le jour où Saint-Esprit m'a convaincu de péché, j'ai pas cherché la liste. Il était devant moi. Il m'était dur de regimber contre les aiguillons. Donc, j'insiste là-dessus, la conversion, c'est une étape indispensable pour que la vie nouvelle arrive. Alors, c'est merveilleux, une libération est vécue, la honte disparaît, la culpabilité également, notre conscience est purifiée. C'est vrai, nous nous sentons légers. Nous voici les yeux ouverts et la conscience éclairée et de la bonne manière cette fois-ci. Alors comment se fait-il, ce que je disais en introduction, que tant d'hommes et de femmes ayant connu cette réelle visitation de Dieu, après quelques semaines, mois ou années, s'écartent, s'éloignent et connaissent parfois des profonds tourments? Eh bien, il y a là, entre autres, je ne vais pas épuiser tout le sujet ce matin, mais il y a quand même fondamentalement quelque chose qui n'a pas été tranché. Parce que tout ce que je vous décris là, c'est essentiellement l'œuvre de Dieu qui vient nous visiter. Nous le disons dans nos prières. Seigneur, j'étais mort dans mes péchés et tu es venu me visiter, tu m'as sorti, tu m'as arraché. Alléluia! À travers tout ça, Dieu nous parle. Et la question est, quelle réponse nous donnons à Dieu quand il nous a parlé? Parce que quand on a toutes ces visitations, c'est Dieu qui parle. En plus, quand il nous donne la vie d'en haut, il nous donne un amour pour aller lire sa parole. Alors l'amour pour aller lire sa parole, ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est l'enthousiasme. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on vienne manger le pain de vie. Il aime mieux distiller ses mensonges, qui sont déjà bien installés au moment de la conversion. Parce qu'à l'instant où la nouvelle naissance, où la greffe, là, où les premières cellules viennent se coller et irriguer, notre âme, nous avons un changement de mentalité, mais notre âme, elle est encore plombée par tout ce qui s'est passé avant. Elle a besoin d'être renouvelée. Je le disais dans sa prière, renouvelle notre intelligence, renouvelle nos émotions, renouvelle nos sentiments, renouvelle tout. Le filet d'eau arrive, ou le fleuve d'eau arrive, il faut qu'il lave, il faut qu'il rince, et ça ne se fait pas en une journée. Et il faut l'accepter. Mais en tout cas, Dieu a parlé, et nous avons à lui répondre. Plusieurs passages dans la Bible nous invitent à être tranchés. Que celui qui n'a pas la sagesse la demande, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, généreusement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. Ce qu'ils ont, c'est un homme inconstant dans toutes ses voies, qui ne s'attendent pas à obtenir quelque chose. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est quelque chose qui m'a, un verset qui m'a beaucoup parlé dans ma vie. J'avais une formation plus ou moins jésuite, tortueuse, machin. C'est très, très utile dans le monde des affaires et de la politique. On dit jamais oui, jamais non, machin, on garde toutes les portes ouvertes. Eh bien justement, quand on garde toutes les portes ouvertes, il y en a un qui rentre. C'est l'ennemi. Voilà. Et ça, vous voyez, que votre oui soit oui. Jacques nous le rappelle en Jacques 5,12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre. Ce n'est pas la peine de faire des grandes déclarations, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ça, c'est déjà une indication. Une fois que Dieu a parlé, un chant de Corinne Lafitte lui dit, une fois que quand tu as parlé, je ne peux plus douter. Quand c'est passé dans votre vie, ces choses que j'ai décrites, avec des intensités, des choses différentes. Mais je veux vous dire une chose quand même ce matin, si ça ne s'est pas passé, ne cherchez pas l'expérience, mais demandez à Dieu la vie nouvelle, parce qu'il la donne. Ne cherchez pas des expériences, ne cherchez pas, parce que vous avez entendu un témoignage, à avoir la même expérience. Ce n'est pas ça. Croyez. Croyez, parce qu'il est la lumière. Si vous vous tournez vers la lumière éclaire. Je peux vous dire, on a coupé quelques arbres parce que c'était un peu ombragé. Ce matin, il y avait un beau soleil d'est là qui se levait, enfin le soleil, hein, il n'y a pas de soleil d'est, mais à l'est. C'est magnifique, la lumière elle est claire. Et si on se tourne, je vais vous dire, on voit. Moi je donnais dans mon témoignage, bon j'aime bien le bâtiment, et j'avais une maison qui était enduite en ciment, et qui avait été peinte simplement, peinture blanche. Quand on voyait dans le jour normal, c'était pas mal, l'enduit est pas mal fait. Mais alors il y avait un bon projecteur sur la façade, et quand on l'allumait ce soir, c'est pas possible, qui c'est qui a fait ça, boulot. Là on voit tous les défauts, quand la lumière vient, on voit tous les coups de taloche. Ah ben oui, mais c'est ça. Donc il n'y a pas de problème. ne cherchez pas une expérience, mais demandez à Dieu, il est clair. Il est clair. Et si on se tourne vers lui, il est clair. Et il est clair tout le temps. Il n'a pas d'interruption. C'est dit dans la parole. L'interruption, c'est quand on se tourne pour ne pas voir la lumière. Donc c'est notre responsabilité. Si vous n'avez pas vécu ces choses, tournez-vous vers Dieu. Et il donne. J'en viens aux âmes qui ont reçu la vie de Dieu et qui sont détournées. Je vais vous lire un passage dans 2 Pierre 2. Je vous invite à prendre ce passage. 2 Pierre 2 à partir du verset 17. Pierre met en garde les communautés. Il est vers la fin de sa vie. De même que Jean, les épîtres de Jean sont des mises en garde. Parce que déjà, l'Église de Jésus-Christ, qui s'est répandue déjà quasiment jusqu'aux extrémités de la terre connue, connaissent tout un tas de dérives dans tous les sens. Et pourtant, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, les serviteurs mettent en garde. Pierre va dire, je vous exhorte, ça fait déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans la première, je vous donnais déjà par des avertissements, et je continuerai de le faire. Je sais que, comme le Seigneur m'a prévenu, que je vais t'enlever d'un seul coup, mais je continuerai jusqu'au bout à vous avertir, et je ferai en sorte que quand je serai parti, on vous avertisse encore. Alors c'est quand même important. Dans 2 Pierre 2, au verset 17, il dit ceci, il dénonce des faux conducteurs, des apôtres, tout un tas de ministères qui apportent des choses fausses et qui troublent des âmes mal affermies. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils parlent de ministères ou de proclamer ministères. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je vous relis cette phrase. Ils amorcent par les convoitises de la chair, qui vont présenter comme des choses spirituelles, mais en fait, ils amorcent l'âme. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est-à-dire ceux qui viennent à peine d'être sauvés. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est la raison pour laquelle Paul nous parle des ministères qui sont établis pour éviter que chacun soit emporté à tout vent de doctrine, mais qu'il soit affermi. Pierre reprend ce thème. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave. Retenez ce verset. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On peut tout. Le christianisme n'est pas une religion de préceptes, règles sur règles, etc. Ne vous laissez pas dire, ne mange pas, ne prends pas, ne touche pas. Mais attention, attention, je ne me laisserai asservir par rien. Pas par esprit de rébellion, mais parce que j'ai quitté ces choses. J'ai quitté ces choses. La corruption, la dissolution. Attention, c'est des puissances qui ont une force. Ne nous laissons pas reprendre. Pourquoi ça touche particulièrement les âmes mal affermies qui viennent de donner leur vie au Seigneur? Parce que l'âme est encore puissante, parce qu'il y a besoin encore de guérison, jusqu'au bout, de guérison, de délivrance, d'épuration, de sanctification. Mais c'est normal. Mais les proies, les rapaces que l'ennemi envoie viennent prendre ces proies-là. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, poursuit Pierre, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Cette parole est très claire. Et vraiment, je sais que tous les conducteurs sont touchés par ça. Quand on voit des personnes qui étaient certes dans des difficultés, qui connaissent le Seigneur et qui, après des années, sont dans des conditions pires. La parole nous dit ce qui se passe. C'est pas normal, c'est triste, c'est affligeant, à tout point de vue, pour les personnes, pour le corps de Christ, parce que c'est des témoignages qui sont des scandales pour le monde. Rappelez-vous que David, lorsqu'il est allé avec Bathsheba, l'enfant qui est mort, c'est pas par rapport à l'adultère. Dieu nous dit, c'est parce que tu as fait blasphémer ceux qui ne me connaissaient pas. Nous avons une responsabilité. Ce n'est pas rien que de recevoir cette vie d'en haut. Mon propos n'est pas accusateur. Il est un cœur, je ne veux pas être excessif, mais qui souffre. Qui souffre cette vie d'en haut qui est donnée par Dieu. Qu'en fait-on? Alors tranchons. Je vais venir aux solutions. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est pas facile comme parole, mais reconnaissons. En tant que conducteur, des fois on ne peut que s'humilier pour ça. Alors, je veux continuer. La conversion, par le changement de mentalité qu'elle opère, nous met en capacité d'être instruits. Retenez bien ça. La nouvelle naissance, c'est merveilleux, c'est un début, et ça nous met dans une nouvelle situation. Ça nous met en capacité d'être instruits par Dieu, dans ses voies, et du coup de le connaître. De connaître sa volonté et d'y entrer. C'est ça qui est formidable. C'est que tant qu'il n'y a pas cette nouvelle naissance, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu parce qu'on est dans les ténèbres, et de se diriger dans les ténèbres, inévitablement à un moment ou à un autre, ou on tourne en rond, ou on se casse la figure. Ce n'est pas possible de marcher dans les ténèbres. Il faut que la lumière vienne. Quand la lumière vient, il y a une illumination première, et ça nous donne accès au guide. On sait le lire. Il y a une révélation qui se fait dans le cœur. On la lit, et ce n'est pas une lettre morte, c'est une lettre qui est vivante, parce que l'Esprit fait son œuvre. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ils sont en mesure, pourvu qu'ils se laissent instruire, de faire les bons choix. Voilà. La nouvelle naissance nous donne la capacité de recevoir les instructions de Dieu. Voilà. Avant la nouvelle naissance, il a mis, on l'a chanté, dans la création, tout ce qu'il faut pour qu'au moins fasse une première étape, Dieu, tu existes. Et donc, comme tu existes, je m'incline devant toi, au moins. Au moins. Hein? Alors, la consécration, j'aborderai deux parties. On aurait bien d'autres, il y aurait bien d'autres choses à dire. La consécration, il y a une dimension. Alors, la consécration, qui était consacrée? Dans l'Ancien Testament, on voit tous les Lévites. Aaron et ses fils. Je n'ai pas lu tous ces passages. Il y a une cérémonie, on va dire, où Moïse consacre Aaron et ses fils pour le service de l'autel. Hein. Il les introduit, il les consacre pour le sacerdoce auquel ils sont appelés. Il y a tout un rituel, des ordonnances charnelles, hein, que nous appelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, notamment des sacrifices d'abord d'expiation, ils ont besoin d'être purifiés eux-mêmes, que leurs péchés soient pardonnés, parce qu'on ne s'approche pas du lieu saint, on n'offre pas ses sacrifices à Dieu avec plein de boue. Hein. Donc il y a toute la purification. Ensuite, il y a une onction qui leur est donnée. D'abord le sang, c'est toujours dans cet ordre-là, d'abord le sang. Je rappelle les pécheurs, mais aussi qu'on reçoit la vie de Dieu, et puis l'huile, qui est l'onction, hein, vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Ils le recevaient sur leurs oreilles, sur le pouce, sur les pieds, bon, il y a toute une symbolique là, mais voilà, ça c'était des gens consacrés, à la fois mis à part pour un service, et entièrement donnés à cela. Donc c'est un peu les deux aspects que j'aborderai. La consécration, il y a une dimension d'être mis à part, et d'accepter cette mise à part. Parce qu'on est mis à part. Mais si on refuse, ça va se gâter. Et deuxièmement, un sens plus actif, c'est se donner entièrement. Alors être mis à part. Dans Exode 21, je vous lis quelques versets, je vous les cite et puis on va les lire là rapidement. Exode 21, versets 2, 5 et 6, ça traite de question des esclaves hébreux qui ne pouvaient pas être esclaves toute leur vie. Ils devaient être libérés. Et il est dit ceci, « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. » Écoutez bien, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ça, c'est intéressant. Avant d'être libéré, l'esclave n'avait pas la capacité de choisir. Il était esclave, il faisait ce qu'on lui disait. Si vous ne pouvez pas, il avait le droit de vie et de mort sur un esclave. Le texte qui nous est dit là, l'esclave est maintenant libéré. Il peut partir et faire ce qu'il veut. Et là, lui, il choisit. Il choisit. Notre salut nous libère du péché, etc. Mais ensuite, Jésus devient notre sauveur. Mais pour qu'il devienne notre Seigneur, il faut qu'on lui dise, ma liberté que je viens d'avoir du péché, cet allègement, cette libération, c'est pas pour continuer à faire ce que je veux, maintenant, devant ta bonté ainsi manifestée, Seigneur, je te dis, je veux rester avec toi. Et que fait le maître ? Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Vous avez bien noté que ce n'est pas le maître qui dit « Je te libère, mais j'aimerais bien que tu restes, on va pouvoir ça. » Non, non. Le maître lui dit « Vas-y, t'es libre, va-t'en. » Et le fera approcher de la porte du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave, cette fois-ci, sera pour toujours au service du maître. Mais c'est lui qui aura choisi après avoir été libéré. Il y a plusieurs enseignements là-dessus. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas été libéré par lui. On ne peut pas servir Dieu parce qu'à ce moment-là, c'est de la religion. On va faire des œuvres, moi j'aime Dieu, je sers Dieu, etc. As-tu reçu son pardon ? As-tu été convaincu de péché ? As-tu reçu sa vie ? Sinon, ne cherche pas, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas. Donc avant d'être libéré, l'esclave n'avait pas, nous n'avions pas la capacité de choisir. C'est le salut et la nouvelle naissance qui nous donnent la capacité de choisir. Ne nous cachons pas, nous avons à choisir. Je dis bien quand on est sauvé, nous avons à choisir. L'exemple de l'aveugle de naissance. Hein ? Un aveugle de naissance, Jésus le guérit. Maintenant qu'il sait et qu'il voit, il rencontre Jésus, le découvre, le reconnaît comme Seigneur et se prosterne. Je ne relis pas le passage, j'avais donné un message il y a quelque temps là-dessus. Il choisit après avoir été illuminé. Parce qu'il a été illuminé, l'aveugle, pas simplement ses yeux. Il a reconnu que celui qui lui avait rendu la vue était le Fils de Dieu. Il va lui dire, mais qui est-il que je l'adore et je le suive ? C'est moi, dit Jésus. Et il se prosterna. Il a choisi. Il a été libéré des ténèbres. Il choisit. C'est un texte que je trouve merveilleux parce que jamais vu aussi rapidement quelqu'un passer des ténèbres à disciple de Jésus, engagé 100%. Bon, c'est formidable. Donc voilà la question qui nous est posée. Voilà un enjeu important. Maintenant que notre cœur a été illuminé, que le voile est déchiré, sommes-nous d'accord pour accepter de servir notre libérateur ? Sommes-nous d'accord ? Pour accepter. C'est notre responsabilité, il ne nous l'imposera pas. Si nous prenons la libération, parce qu'il y a nécessairement des libérations au moment d'une conversion, si nous prenons la libération pour retourner dans une liberté, peut-être moins de débauche, mais enfin, faire, continuer à faire ce qu'on veut, ça se terminera de travers. Nécessairement. Je parle là, donc, d'accepter d'être mis à part. Oh, je vais faire un peu dans le désordre. Non, je vais aller dans l'ordre. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais insister sur un fait. Être mis à part et accepter cette mise à part, ce n'est pas se tenir à l'écart. Ce n'est pas la même chose. On est mis à part. Quand il y a une mentalité, notre mentalité a changé, on ne voit plus les choses de la même façon. Les amis qu'on avait du monde, c'est plus pareil. À tout le moins, il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. Attention, certains aussi, après la conversion, je dis, le monde, et se mettent à part. Il n'y a aucune église qui colle, etc. C'est normal qu'il n'y ait aucune église. Elle est faite de pécheurs en cours de transformation. C'est un peu normal qu'il y ait deux, trois problèmes. Hein ? Bien, bon, je n'aime pas trop répéter les plaisanteries. Enfin, c'est pas les plaisanteries, les petites remarques évangéliques. L'église dans laquelle j'arrive, elle se dégrade un peu, puisque je suis un pécheur en cours de transformation. Donc, en plus des problèmes qu'il y avait, j'amène les miens. Bon, reconnaissons-le, simplement déjà. Donc, attention, hein, être mis à part, ce n'est pas se tenir à l'écart. Si, à l'écart des débauches du monde. Mais ce n'est pas se tenir à l'écart des frères et des sœurs. Pourquoi vient cette pensée? C'est dans Proverbe 18, hein, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Retenez ce proverbe 18:1. C'est un tout petit verset, mais il est bien utile des fois. Hein? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît à lui. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. J'y reviendrai, mais c'est un leitmotiv aussi, ça. On est sauvé et mis dans un corps. Et on est mis dans un corps, c'est très très utile. Parce qu'on se frotte et ça révèle, alors on voit très très bien ce qui ne va pas chez le frère, la sœur, tout ce qui m'irrite. Effectivement, il y a quelque chose sans doute qui ne va pas bien. Mais ça m'irrite parce qu'il y a le complément là, ou la même chose, qui frotte chez moi. Alors on dit, Seigneur, alléluia, merci Seigneur de m'en envoyer encore une. Tu peux encore m'envoyer deux, trois frères, deux, trois sœurs comme ça, qui me révèlent, par lesquels tu me révèles ce qui ne tourne pas encore bien rond. Et puis, ben voilà, ça va s'enlever. Transformation, renouvellement de l'intelligence, du mode de pensée, des modes de jugement, etc. Bon, là, je passe, c'est pas mon message. Donc, le premier aspect, c'est ça, le premier aspect de la consécration. Une mise à part qui sépare. Une mise à part, ça sépare quelque chose. Et toute séparation est d'une certaine manière une souffrance. Et c'est ça le problème. Souvent, on ne supporte pas. On dit, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, etc. Et puis, quand même, on aimerait bien continuer des trucs du monde. Oh, c'est pas bien grave, c'est quand même sympa. Eh bien, une mise à part, ça sépare. Une mise à part, ça sépare. C'est comme ça. Et des séparations, c'est des souffrances. Le deuxième aspect de la consécration, c'est se donner entièrement, et j'ai mis point de suspension, sans tout savoir. Deuxième aspect de la consécration, c'est se donner entièrement. Entièrement. Romains 12, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc. Alors, je vous rappelle que ce donc fait allusion aux 11 chapitres précédents. Je dis bien aux 11 chapitres précédents de la lettre aux Romains, où il nous expliquait le salut, la grâce, l'œuvre à la croix, la mort avec Christ, la résurrection, l'incorporation, la greffe au milieu du peuple hébreu, du peuple choisi, etc. Je vous exhorte donc. frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes une tribu, un peuple de sacrificateurs. Alors la particularité de ce peuple de sacrificateurs, c'est que l'offrande, le sacrifice que nous avons à faire, ce n'est pas un agneau ou un bouc qu'on irait prendre, c'est nous. Ah, ça c'est plus compliqué. Seigneur, je mets sur l'autel. Où est l'agneau? Eh bien là, il n'y a plus l'agneau de substitution. Jésus nous a précédés. Lui, il a été le sacrifice immolé par lequel nous avons la vie. Et maintenant, il ne nous demande pas, il nous demande pas de donner notre vie pour sauver nos frères. Ça, c'est lui qui l'a fait. Il nous demande de donner notre vie, pas notre mort, notre vie pour le servir. Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est pas comme l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, le sacrifice, mort. Nous, sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aime bien l'expression. Culte raisonnable. Oui, c'est un culte raisonnable. Par rapport au don de Dieu, à ce qu'il a fait dans notre vie, c'est un culte, c'est un retour. On ne pourra pas lui rendre ce qu'il a fait. Mais Seigneur, c'est tellement merveilleux. Tu m'as libéré. On chante ça régulièrement. Alors je me donne à toi. Hein? Daniel nous le rappelait tout à l'heure. Hein? Je me donne à toi, sauf ça, sauf ça, sauf ça. Ben non. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Très important, le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas le tout simplement d'avoir la nouvelle vie, il faut que ce soit nettoyé, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que nous connaîtrons de mieux en mieux la volonté de Dieu pour nos vies, et je crois que jusqu'au bout, nous prendrons la mesure de notre appel, nous entrerons dans notre appel jusqu'au bout, au fur et à mesure du renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire aussi, à l'inverse, qu'au début, notre intelligence n'est pas complètement renouvelée et nous commettrons des erreurs. Je voudrais vous dire une chose, nous ne serons pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Je vous parlerai tout à l'heure de Pierre, mais ça n'empêche pas qu'on a à avancer. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Normalement, alors là il y a un paradoxe, normalement quand on a été convaincu de péché, l'opinion qu'on a de nous-mêmes elle baisse de quelques crans. Ce qui se passe, c'est comme en même temps, il y a une illumination du cœur, il y a une intelligence, des choses, des situations qui viennent de Dieu, c'est incontestable, un orgueil spirituel cette fois-ci peut venir. C'est normal, c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, dans les instructions pour choisir les anciens, ne prends pas un nouveau converti afin qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parce qu'il y a une telle illumination qu'on croit tout savoir, etc. Et là, il y a encore un piège de l'ennemi. Hein? Donc tout ça est cohérent. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, au passage donc, mise à l'écart, mise à part ne veut pas dire se mettre à l'écart, hein, on est dans le corps, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, quand on lit ce texte, donc nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ la vie nouvelle et en réponse, nous sommes appelés à offrir notre vie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, déjà, le prononcer devant Dieu. J'allais dire pas forcément devant une assemblée, mais devant Dieu. Hein? C'est important de dire à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus lui-même l'a dit à son Père. À Gethsémané, Jésus a connu ce combat de dire « Je veux faire ta volonté ». Je ne sais pas si on les connaît bien ces versets, mais on les passe très rapidement. Dans Matthieu 26, 39, il dit une première fois « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il la formule comme ça au début. « Que cette coupe s'éloigne de moi. » voyez le combat qui est là ? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La deuxième fois, il y a un combat. On parle beaucoup de combat spirituel. Je n'ai pas vu de plus grand combat spirituel que ce qui se passe là. La deuxième fois, en 26-42, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, et le travail qui se fait dans le cœur de Jésus. Imaginez les péchés, la haine du monde entier, les turpitudes, les choses cachées des hommes de toutes les générations qui sont sur les épaules, sur la vie qui oppresse notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un combat, même pour lui, vrai homme, même fils de Dieu. Il y a un combat. Et ce combat va se gagner par la confession de sa bouche. Premièrement, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Deuxièmement, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne. Sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et en Matthieu 26, 44, il nous est dit, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, que ta volonté soit faite. Donc première chose, offrons nos vies au Seigneur. Et je crois que c'est important que nous le disions à voix haute, face à Dieu, Seigneur. C'est que de ma conversion, je dis, Seigneur, fais de moi l'homme que tu voudras que je sois. Prenons Pierre. Pierre a déclaré, il a déclaré plein de choses, Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et encore, lors du dernier repas, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ma vie pour ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Il n'empêche que Pierre a dit, je donnerai ma vie pour toi. Et Pierre a donné sa vie pour son maître. Il l'a prononcé de sa bouche. Alors vous allez me dire, oui, mais Pierre a renié, il a été humilié. Oui, il a renié, Pierre, parce qu'il ne se connaissait pas. Les autres non plus. Puisqu'au moment où Jésus dit, l'un de vous va me trahir, ils se regardent les uns les autres. Est-ce moi, Seigneur ? Est-ce moi, Seigneur ? Il était vachement sûr d'eux, hein. Il ne connaissait pas. La peur, les saisies, l'angoisse, ça ne nous est pas arrivé ? N'empêche qu'il a dit. Il a dit, c'était de son cœur, avec là où il en était. Il a dit, je donnerai ma vie pour toi. Et il a donné sa vie pour lui. Ah, il s'est passé des choses entre-temps. Pierre a rogné, il a été humilié, mais il a continué d'avancer et il est entré dans son appel. La question souvent, c'est qu'on accepte. Est-ce qu'on accepte d'être humilié ? Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il l'a dit avec conviction. Il a été repris, il y a des choses qu'il ne connaissait pas en lui. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, il m'a beaucoup aidé, Pierre, il m'aide beaucoup. Les psaumes 119, en quelques versets, nous disent ceci, « Avant d'être humilié, je m'égarais. » On n'aime pas être humilié. Et pourtant, « Avant d'être humilié, je m'égarais. » Combien on cherche la voie de Dieu ? Acceptons d'être humilié, acceptons d'être trompé, d'avoir à être rectifié. Il m'est bon d'être humilié afin que je connaisse tes statuts. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Tout ça dans les psaumes 119, versets 75, 76, etc. et suivant. En quelques versets, cela nous est dit avec insistance. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation. Donc ouvrir notre bouche devant Dieu, cette fois-ci seul devant Dieu, et lui dire, ben oui, fais de moi l'homme, la femme que tu voudras que je sois. Yves, Marie-Thérèse, nous rappelait dans leur appel, ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je crois que c'est important de le dire à Dieu. Je rappelle que nous sommes dans ce mouvement où nous avons à répondre. Dieu a appelé, il est intervenu dans notre vie. Que fait-on ? Il a parlé dans nos vies. Qu'est-ce que je lui réponds maintenant ? Cette démarche vient révolter le vieil homme qui aime contrôler, élaborer ses stratégies, puis détailler les étapes et les mettre en œuvre. C'est certain. Puis les contrôler. Non pas que la marche de Dieu soit incohérente. Je dis ça parce que j'entends souvent, oh, le Saint-Esprit m'a parlé, machin. Oh, des choses, mais complètement incohérentes. Mais Dieu, il n'est pas tordu comme ça. Il n'est pas tordu comme ça. Vous allez voir, je vais insister un peu là-dessus. Si on regarde tous ceux qui ont servi le Seigneur, sa façon de faire, c'est obéis à ce que je te dis, et je préciserai, fais le pas que je te demande, et je te montrerai le suivant. On a du mal avec ça. C'est normal, c'est complètement contraire à notre nature. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pas un 1500 watts. Et une lumière sur mon sentier. Donc, j'ai de quoi faire le pas suivant, et d'avoir un petit bout de la direction. Je ne sais pas où il m'emmène. Il a dit à Pierre, toi, suis-moi. Jusqu'à présent, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te saindra et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Le Seigneur sait bien tout ce qui résiste en nous. C'est pour ça qu'il met la lampe à nos pieds et la lumière sur le chemin, mais il n'éclaire pas tout, sinon on n'irait pas. Proverbe 6, verset 23, dit ceci, j'ai aimé, le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Ça donne une direction, ça donne un peu les règles, vous voyez. Il y a des commandements de Dieu. Fais ceci, ben fais-le. Fais-le. Mardi soir, nous avons eu quelques témoignages. Je témoignais d'une... Ça peut paraître pour certains une anecdote. J'avais travaillé le matin avec un tracteur et mon petit-fils. Et au moment de rentrer le tracteur le midi, vraiment, clairement, une pensée me vient, douce, tranquille, fais le plein du tracteur. Bon. Mais j'avais les enfants à la maison, je dis, oh, on verra ça va bien aller. L'après-midi, la petite fille dit, papy, on fait un tour en tracteur. Je dis, bien sûr, monte sur le tracteur. De nouveau, la petite pensée, eh viens, tu pourrais faire le plein avant. Oh non, on va faire un petit tour, juste un petit tour. On monte, et voilà, on a fait 150 mètres, bing, plus d'essence. Marc, il s'est bien réamorcé un tracteur. Bon, maintenant, c'est des beaux tracteurs. Bon, il y a des jauges, mais moi, je n'ai pas de jauge. Hein. Alors, mais j'avais mieux que la jauge. Le Seigneur m'amène une pensée douce. Écoutez, c'est un précepte, une petite obéissance. Fais ton plein. C'est parfait. Des conséquences. Du temps perdu. Mais un enseignement. Écoute, Israël. Écoute. Ton Père qui t'aime. Il parle pour te faire gagner du temps, pour ne pas perdre ton temps. C'est tellement plus simple de mettre du carburant dans le réservoir que de pousser un tracteur qui fait 2,5 tonnes, d'essayer de... Enfin bon, ça y est, mais on a perdu 3 heures. Mais c'est des heures du royaume! C'est des heures du royaume, frères et sœurs. Il nous parle, il nous guide, parce qu'il nous aime. Le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ésaïe 42, verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Cherchez pas à tout savoir, cherchons pas à tout savoir. « Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » « Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » Il nous donne des forces pendant la marche. Ceux qui restent sur place, pour les forces, il va falloir attendre. Pendant la marche, la nouvelle des forces, et il éclaire. Mais le problème, c'est qu'on voudrait voir dire « je sais » et qu'on ne veut pas se tromper. On peut se tromper. Mais rappelez-vous, Dieu n'est pas pervers. Dieu est bon avec celui qui est bon, il est juste avec celui qui est juste, et avec celui qui est pervers, c'est notre cœur qui est pervers, c'est pas lui. Avec notre cœur qui est pervers, Il n'est pas pervers. Il agit selon notre perversité. Dieu n'est pas pervers. Il ne vous emmènera pas si vous marchez dans l'obéissance. Si vous acceptez d'être humilié, il ne vous emmènera pas dans des impasses. Un autre exemple, Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. » Voilà le nom du pays. Non, que je te montrerai. Futur, certain, mais futur. Il lui montrera, mais pars pour l'instant, va. Par Moïse, Exode 2, verset 10, « Maintenant, va. » Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, etc., etc. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il avait déjà essayé 40 ans avant, c'était pas terrible. Dieu dit, je serai avec toi. Maintenant, va, je t'enverrai. Il était plus près. Je serai avec toi. Alléluia. Pour Pierre, je vous l'ai dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Pour Paul, acte 9, verset 4, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de rejeter un bœil contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Paul, le théologien élevé au pied de Gamaliel, l'esprit brillant, etc. « Qui es-tu, Seigneur ? Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Va, prêche à toutes les nations. » Non, lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Paul ? Oui. Attendez, c'est ça que dit la parole. Il ne dit pas, Dieu a dit à Ananias, ne crains pas, car voici, c'est un instrument que j'ai choisi. Il ne dit pas ça à Paul, hein, il dit ça à Ananias. Et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Mais à Paul, il lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Vous savez, ça me fait penser au le ministre, son nom m'échappe, qui avait la lèpre et Naaman et qui s'attendait à ce qu'on le reçoive en grande pompe, etc. Puis finalement, c'est une petite servante qui lui dit, puis. Élisée sort même pas de chez lui, quoi. Obéissance. Obéissance. Paul, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pour l'instant, de toute façon, tu es aveugle, il avait besoin d'être guidé. Paul, eh ben oui. Donc, deuxième aspect de la consécration, se donner librement et de tout cœur. Cet aspect-là, c'est la réponse de l'homme à la mise à part opérée par Dieu et à l'appel émis par Dieu. Se donner, c'est notre réponse à ce que Dieu nous a pris et nous a mis à part. Tous nous sommes appelés. Tous nous sommes appelés. Et c'est lorsqu'on dit « Oui, Seigneur, fais de moi » que les choses vont s'éclairer petit à petit. Disons pour être plus précis que c'est une succession de réponses. Parce qu'à chaque pas nouveau, il va nous demander, tu veux encore me suivre? Dans Jean 6, alors qu'il est dit, la plupart des disciples le quittent, et Jésus pose la question, et vous voulez me quitter aussi? Alors Pierre, toujours Pierre, il ne sait pas plus que les autres. Mais il a ceci quand même. Mais à qui rions-nous? Il n'a pas tout compris. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas claires du tout. Mais il y a une chose qu'il a compris. Mais à qui rions-nous? Il a saisi que Jésus, ce n'est pas comme les autres. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. il a cette révélation-là. C'est le cœur du christianisme, c'est le bon dépôt qu'il nous faut garder et qui va nous permettre de dire oui. Seigneur, je ne comprends pas. Ça, c'est un pétard de choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Va. Mais quand on se retourne, par contre, et ça, c'est biblique, Seigneur, là non plus, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Et c'est ça qui nous fortifie. C'est ça qui va nous aider à dire le oui suivant. Parce que ne croyez pas qu'au bout de 15 ou 20 ou 30 années ou 40 années, alors moi 40 années, je ne peux pas en parler, mais il ne veut pas en parler, est-ce que vous allez mieux savoir? Il y a des choses qu'on va un peu mieux savoir. Mais il y aura de nouveaux défis. Et il y aura encore des oui à dire sans tout comprendre. Il y aura encore des oui à dire sans tout comprendre. Parce que nous ne savons pas, vous pouvez lire toute la prospection, le machin, faire de la géopolitique, nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Nous savons que ça ne va pas de mieux en mieux, mais nous ne savons pas les temps, les circonstances, les comment, et comment Dieu va se servir. On ne sait pas, mais lui, il sait. Alors, arrêtons de mettre nos stratégies à deux balles à la place des siennes. On lui fait simplement perdre du temps. Il fera ce qu'il a à faire en son temps, mais nous disons, Seigneur, je ne comprends pas, mais oui. Que je sois bien compris, par contre, moi, ce matin, c'est pas dire faire tout et n'importe comment. Nous avons la parole qui nous éclaire, qui nous donne des choses. Le Saint-Esprit ne parle jamais contre la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Et si on n'a pas tout compris de la parole, le Seigneur a placé des hommes, des femmes, des conseillers, des gens plus matures que nous. Il n'est pas interdit de leur demander leur avis. Cette réponse donc n'est pas une fois, mais une succession de réponses, parfois dans la douleur, parfois dans la résistance. Rappelez-vous, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ce qui est important, c'est de ne pas revenir en arrière. Dans Luc 9, au verset 62, Jésus lui répondit, vous savez, il y a tout ce... je veux te suivre. Pas, ça c'est un autre message, mais qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus? Souvent nos relations, nos occupations, nos possessions. Hein. Et Jésus lui répondit, quiconque met à la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je ne me permettrai pas d'ajouter à la parole de Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que si on tient la charrue et qu'on regarde en arrière, le signon ne va pas être très droit. Il faut mieux regarder au Seigneur. Ça va aller du seul. En conclusion, c'est curieux, mais j'ai à cœur de lire ce texte dans Deutéronome 7, les versets 6 à 11. Donc, je voudrais résumer les deux points. La consécration, une mise à part par Dieu, qui nécessairement engendrera certaines souffrances. Une mise à part. Mais ça ne veut pas dire une solitude, une mise à part. Le peuple de Dieu, et ce sera le sens du texte que je vais lire, le peuple de Dieu est un peuple à part. C'est vrai du peuple d'Israël, c'est vrai de son Église. C'est un peuple à part. Et ce qui nous fait planter, c'est qu'on voudrait à la fois être à part, mais aussi de jouir de toutes les misères du monde, de tous ces bonheurs, pardon, en apparence, qui se terminent par la mort. Frères et sœurs, ce n'est pas possible. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Ce n'est pas possible. Il faut prendre position. Ce n'est pas possible. Alors, Deutéronome 7, versets 6 à 11. Car tu es un peuple saint. Je vous rappelle, dans saint, il y a aussi mis à part. Pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. D'autres passages dans la Bible nous indiquent que celui qui hait, qui a de la haine pour Dieu, c'est celui qui adore d'autres dieux et que c'est une abomination. Frères et sœurs, mais parce que l'Éternel vous aime, nous sommes appelés à vivre pour Dieu dans un corps, à une vie consacrée au sein du corps. Mais c'est une vie cachée d'un peuple qui pour l'instant est petit. Nous sommes appelés à être sel dans le monde et non à saler le monde, à être une lumière qui éclaire et non rechercher à tout prix la visibilité et à être vu. Alors, quelles que soient les circonstances et les colibés, nous garderons l'espérance. Je vous rappelle que ce verset donné à l'Assemblée pour l'année, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset est enchâssé, si j'ose dire, comme un trésor au milieu d'Ésaïe 30, qui rappelle « N'allez pas chercher du secours en Égypte. L'Égypte sera comme un roseau qui vous blessera à la main. » Et tout de suite derrière ce verset, c'est dans le calme et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit « Nous prendrons les chevaux légers et nous conquérons. » Eh bien, les chevaux vous poursuivront et vous filerez. Conservons. Il est dit aussi dans Deutéronome, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres que je t'ai choisi, car tu es un peuple rebelle. Deutéronome 9, vous pourrez aller le lire à 4 ou 5 fois, il dit, vous êtes rebelle. Mais je voudrais qu'on retienne là. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment, il est fidèle. Alors, acceptons une mise à part. Donnons-lui tout notre cœur, notre vie, qu'il en fasse ce qu'il veut, et nous marchons jusqu'au bout. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet amour. Merci Seigneur pour tous les pas que tu nous as donné de faire, Seigneur. Pardon Seigneur pour bien souvent la résistance, nous avons tardé. Mais Seigneur, merci encore pour les corrections, Seigneur, par lesquelles tu nous as gardés sur le bon chemin. Et tu nous garderas encore. Seigneur, donne-nous, non pas de regarder en arrière avec des regrets, Seigneur, mais de regarder toutes tes interventions, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu nous as tirés du malheur, tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, ne te retire pas, Seigneur. Ne retire pas ton Esprit Saint de ton peuple, Seigneur. Seigneur, montre-nous l'état du temple, Seigneur. Et s'il y a des abominations, Seigneur, qu'elles soient ôtées, tu es patient, Seigneur. Tu es patient. Tu nous aimes. Seigneur, viens nous aider à accepter l'humiliation, Seigneur. Pour que nous ne nous égarions plus. Je te dis merci, Seigneur, que ton nom soit honoré, béni au milieu de nous, Père. Amen.